pour investir, la boîte à outils.
Et on ouvre la boîte à outils avec Christian Fontaine du magazine Le Revenu. On a regardé un petit peu quelles étaient les opportunités sur les marchés émergents, notamment là pendant le déchiffrage, et sur les protections contre la volatilité, l'attitude à adopter, les curseurs à pousser là dans ce marché peut-être un petit peu turbulent. Au-dessus de tout ça, quand on est épargnant, quand on est investisseur, il y a un enjeu qui est le régime fiscal sur lequel on investit, les enveloppes fiscales. Alors, est-ce qu'on peut peut-être faire le point, là, en ce début mai, sur les différentes opportunités qu'il y a en fonction de votre profil d'investisseur, bien sûr?
Bien sûr, la fiscalité, c'est aussi d'époque avec la déclaration de revenus et le message.
Faire une spéciale, hein, à suivre.
Le message qu'il faut faire passer auprès des auditeurs et des auditrices, c'est qu'en fait, en matière de fiscalité, il n'y a pas de fatalité. Et donc, il est surtout en période, je dirais, particulièrement volatile sur les marchés financiers, intéressant d'actionner un autre levier de la rentabilité d'un portefeuille boursier. Il y a le levier, bien sûr, de la performance intrinsèque, les dividendes, les plus-values, et vous avez un levier sur les frais et vous avez un levier sur la fiscalité. Alors, comme on est en France, la fiscalité des placements, la fiscalité de vos des titres que vous détenez, des fonds d'investissement ou des ETF, c'est jamais très très simple. La mécanique, en fait, c'est que vous avez le choix de ce qu'on appelle des enveloppes fiscales. En fait, vous avez la possibilité de vous placer dans le cadre fiscal, dans différents cadres fiscaux. Le meilleur cadre fiscal en France pour investir en bourse, c'est le PEA, le plan d'épargne en action, qui vous permet de limiter à 18,6% les prélèvements, l'ensemble des prélèvements sur vos opérations boursières. C'était 17,2 et maintenant c'est 18,6 de mémoire, après 5 ans de détention. Donc contre 31,4% si vous détenez vos titres dans le cadre d'un compte-titres ordinaire. Donc si vous investissez en bourse et si vous n'avez pas encore de PEA, n'hésitez pas à ouvrir un plan d'épargne en action. Il faut, lorsqu'on investit en bourse, choisir un intermédiaire et choisir ensuite un régime fiscal au sein duquel on se positionne. Le compte-titres ordinaire, alors ça, c'est une enveloppe qui existe depuis la nuit des temps dans tous les pays européens et à l'étranger.
Et on en a parlé il y a quelques semaines. Il retrouve des couleurs en ce moment.
Alors, il retrouve des couleurs. Il a toujours eu des belles couleurs et il permet, en fait, notamment d'investir en actions internationales. Et il permet, mais on en discutera peut-être tout à l'heure aussi, d'effacer totalement les plus-values latentes lorsque vous donnez vos titres ou lorsqu'ils sont transmis par voie de succession. L'autre enveloppe fiscale absolument indispensable, c'est bien sûr l'assurance vie. Et donc l'intérêt de l'assurance vie, c'est qu'il n'y a pas de plafond sur versement. Puis l'intérêt de l'assurance vie, vous avez un intérêt en matière de transmission, et puis aussi parce que ça vous permet d'arbitrer en fait entre vos supports d'investissement sans passer par la case impôt, puisqu'en fait vous ne payez les éventuels impôts aux prélèvements sociaux qu'en cas de retrait. Donc c'est très intéressant. Et puis je terminerai cette petite présentation un peu livresque et un peu académique par deux enveloppes fiscales de niche. La première, c'est le PER. Vous en parlez souvent sur votre antenne, et le revenu aussi. Si vous êtes taxé au moins à 30%, n'hésitez pas à investir en bourse par intermédiaire de cette enveloppe fiscale là, une enveloppe fiscale de long terme qui vous destinée à vous doter d'un capital dans lequel vous puiserez le moment venu quand vous serez à la retraite. Et puis vous avez l'épargne salariale. Alors l'épargne salariale, notamment le plan d'épargne retraite ou le PERCOL, le plan d'épargne retraite collectif, qui sont alimentés automatiquement par l'argent de l'intéressement, en fait par votre intéressement ou votre participation aux résultats de l'entreprise, sachant que ces déversements volontaires sont possibles et ils sont souvent abondés par l'entreprise. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. C'est une enveloppe fiscale un peu complémentaire. Bon, il faut être salarié la plupart du temps dans un grand groupe, même si ça se démocratise aussi auprès, je dirais, des PME et des ETI. Donc vous voyez, en fait, des enveloppes qui se complètent, en fait, plus qu'elles ne s'opposent. L'idéal, c'est d'avoir toutes ces enveloppes pour une raison très simple, et là je vous donne un scoop parce qu'on ne sait absolument pas comment va évoluer la fiscalité.
Bien sûr.
C'est souvent dans le mauvais sens, mais on ne sait pas quelle enveloppe fiscale. Vous voyez, par exemple, on a parlé d'assurance vie tout à l'heure. La dernière grosse actu au niveau fiscal, c'est la hausse des prélèvements sociaux les placements. Oui, mais certains placements y ont échappé, notamment l'assurance vie.
Donc si vous avez un peu de tout, vous pourrez arbitrer. Et c'est ça qui compte. L'épargne salariale, on n'en parle pas assez souvent. nous, on en parle. Hein. Il y a encore quelques semaines, on faisait un peu le point dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut activer, nettoyer, observer. Et beaucoup de gens l'oublient, leur épargne salariale.
Et cette saison, puisqu'on fait de l'intéressement à la participation au résultat de l'année précédente, donc 2025, est versée en ce moment par les entreprises. Donc, c'est là où les salariés concernés, hein, ils sont quand même plus de 10 millions, ont une question à se poser. Est-ce qu'ils épargnent ou est-ce qu'ils consomment cet argent avec toutes les conséquences fiscales que ça a? Mais on en reparlera.
Alors, les éventuels pièges ou limites du choix quand on doit opter pour différentes enveloppes fiscales.
Oui, vous prononcez le bon mot. Le piège, c'est-à-dire qu'en fait, le législateur accorde rarement des avantages fiscaux sans contrainte ou sans limite. On parlait tout à l'heure du PEA. C'est vrai que le versement sur le PEA est limité autour de 150 000 euros. C'est quand même déjà une somme significative. Surtout, le PEA, c'est fait pour investir en actions européennes, même s'il existe des supports un peu complexes qui permettent d'investir dans des actions émergentes ou des pays ou des États-Unis. Ça, c'est un peu la limite. La limite du compte titre ordinaire, eh ben, à chaque fois que vous encaissez 1 euro de dividende ou à chaque fois que vous vendez une action avec 1 euro de plus-value, ben, vous passez par la case impôts et prélèvements sociaux. Donc ça, vous ne maîtrisez absolument pas votre fiscalité. Mmh. Il faut le savoir. Ce qui fait que c'est souvent, on recommande en tout cas aux revenus d'utiliser le compte titre ordinaire pour des supports de capitalisation qui ne distribuent pas de revenus, qui les capitalisent. Et comme ça, votre bas de laine progresse sans passer par la case impôt. Parler d'assurance vie tout à l'heure, on va pas le talon d'Achille de l'assurance vie, vous en parlez souvent sur votre antenne, c'est les frais, il faut être vigilant, frais d'entrée, frais de gestion, frais d'arbitrage. Le PER, le PER, c'est un placement tunnel, donc votre argent est bloqué jusqu'à la retraite. Et puis le PEE, le PERCOL, bon, ça c'est l'épargne salariale, et c'est vrai que les fonds accessibles ne sont pas forcément toujours à la hauteur de ce que on pourrait espérer, même si ça s'améliore. Donc c'est vrai que la fiscalité de vos placements, la fiscalité de vos investissements boursiers, c'est un sujet un peu complexe, mais il y a gros à gagner. Le jeu en vaut la chandelle, donc il faut accepter et il faut prendre le temps de se plonger, dans le mode de fonctionnement de ces différentes enveloppes fiscales afin, en fonction de vos besoins, d'optimiser de votre fiscalité. Et encore une fois, tout le monde n'est pas obligé et il y a des moyens légaux pour échapper à la flat tax.
Et puis, on vous en parle à chaque fois dans la boîte à outils. Vous pouvez télécharger, replay, podcast. On en parle régulièrement. Christian Fontaine, juste un tout petit mot. Quand on pense démembrement, il y a peut-être un truc à rajouter dans la boîte à outils que vous nous montrez à l'instant.
Alors oui, tout à fait. Il y a un petit livre qui vient de sortir, petit par la taille, mais gros par les bénéfices que vous pouvez en tirer. Ça s'appelle « Les clés du démembrement de propriété ». Autant tout à l'heure, on parlait de l'IA. Le démembrement de propriété en matière de gestion de patrimoine, c'est vraiment un outil qui continue à bien fonctionner pour optimiser la transmission de vos biens et pour optimiser la fiscalité. Alors, c'est un peu complexe, c'est pour ça qu'il faut être informé aux meilleures sources. Et là, c'est un livre, Les clés de démembrement de propriété, ça vient de sortir, c'est chez Gualino et c'est Fabrice de Longevial, voilà, qui est l'un des meilleurs spécialistes en France de la matière. Donc, c'est un petit investissement qui peut rapporter gros. Et pour dans votre fameuse boîte à outils, c'est l'un des derniers outils qui fonctionne encore bien, que vous soyez, je dirais, père de famille, chef d'entreprise, ça s'adapte, le démembrement de propriété s'adapte à tous les patrimoines et à toutes les situations patrimoniales.
Merci Christian Fontaine du magazine Le Revenu, on vous retrouve très vite pour des conseils très pratiques sur votre patrimoine.